Henri de Régnier, La double maîtresse, deuxième partie, chapitre 6. À l'entrée de Mademoiselle Varaucourt, les laquais avaient ouvert à deux battants les portes de la salle à manger et elle apparaissait brillamment éclairée. L'éclat des lumières avivait le marbre rose des colonnes plates qui soutenaient le plafond. Monsieur Garonnard l'avait peint de figure qui y mêlaient leurs grâces dansantes et suspendues et semblaient y jouer entre elles une sorte de ballet aérien qui charmait la vue par sa mobilité harmonieuse. On était frappé d'abord du mouvement voluptueux des groupes, puis on distinguait peu à peu des ressemblances de Mademoiselle d'Amberville qui s'y montrait en plusieurs endroits sous des formes diverses, tantôt allongée, tantôt debout et au centre de la composition, enhébée, tenant une coupe et penchée dans une attitude attentive et souriante, comme si elle écoutait monter d'en bas la louange de sa jeunesse et de sa beauté. Les panneaux des boiseries peintes en blanc encadraient de guirlandes délicatement sculptées des attributs en relief. Sur des consoles, adossées à de hautes glaces, scintillaient des girandoles de cristal. Aux deux bouts de la salle, en des niches treillagées, deux statues de marbre représentaient des chasseresses. À leurs pieds, des lévriers allongeaient le museau vers deux vasques qui se versaient en deux autres plus grandes. Ces fontaines murmuraient doucement. Sur la table, les bougies des candélabres brûlaient en flammes claires. Un service de porcelaine blanche, très peu rehaussé d'or, entourait un surtout de fleurs parmi des cristaux et des argenteries. La salle, chauffée à outrance, offrait une température forte et savoureuse. Le pas des laquais, chaussé d'une semelle de feutre, ne s'entendait pas autour de la table. On s'assit. Il y eut un léger bruit d'étoffe et une toux de l'abbé Hubertet. Monsieur de Portebise regarda Mademoiselle d'Amberville qui se trouvait placée non loin de lui. Elle avait dégagé son buste svelte des écharpes de gaz qui le voilaient. Ce fut comme si les lumières eussent tout à coup fait éclore la nudité de ses épaules et mûrit subitement la rondeur de sa gorge que la corbeille du corsage montrait petite, délicieuse et ferme. Le cou soutenait la tête dans un port hardi. Le visage s'y proportionnait à merveille. Il apparaissait délicatement sculpté dans juste assez de chair. On y admirait l'éclair des yeux, l'arc de la bouche, la courbe fine du nez qui résumait la figure entière par sa précieuse précision. Le front se parachevait de la poussée drue des cheveux où la poudre posait son vaporeux frimas. Mademoiselle d'Amberville était ainsi inattendue et charmante. On eût dit que quelque chose venait de se dissiper autour d'elle. Elle semblait cristalliser en une beauté aiguë et scintillante comme un flocon qui prendrait tout à coup les arêtes nettes du diamant. Monsieur de Parmenil l'examinait du haut de sa froideur circonspecte. Monsieur Garonnard la regardait du coin de son œil alerte. Monsieur de Saint-Bérin souriait à belles dents. La bouche de Monsieur de Clercilly faisait des mous, et Monsieur de Bercherolles, épanoui et nonchalant, s'appuyait au dossier de sa chaise. Il s'était répandu sur les convives une sorte d'aise commune, une disposition heureuse, et comme une entente réciproque à goûter le plaisir de cette heure passagère, qui mêlerait à l'agrément des pensées et des paroles l'épice des sauces et le bouquet des vins. L'abbé Hubertet était superbe à voir. Une bonhomie sensuelle et gaie animait sa large face. Un mélange de gourmandise et de contentement gonflait sa grosse bouche. On le sentait vraiment joyeux d'être là et nullement étonné de s'y trouver, et qu'on l'y trouva. Il savait que les sages de tous les temps n'ont jamais méprisé le plaisir de déraisonner en commun, et il s'apprêtait à prendre part à la conversation d'esprits assez divers pour que leur contact fût fertile en surprises et abondant en écarts curieux. On n'en était encore qu'au bisque. Un service discret assurait la liberté des propos. Chacun, pour l'instant, ressentait le velouté du potage. Le chevalier de Gurcy eut fini le premier son assiette. Le chevalier, fort grand, fort gros, fort robuste de membres, avait un terrible appétit. Il fallait pour le combler une table entière. Il mangeait comme quatre et buvait à l'avenant. Mais si son estomac était insatiable, sa tête était moins à l'épreuve, et s'il n'arrivait presque jamais à apaiser complètement sa faim, il lui arrivait d'outrepasser sa soif et de ne s'en point trop bien trouver. Mademoiselle d'Amberville s'élevait vivement contre l'intempérance du chevalier et l'en châtiait par des disgrâces passagères que M. de Gurcy supportait mal et dont il se consolait à sa façon et où il pouvait. Il allait faire tapage chez les filles. C'est là que M. de Portebise l'avait rencontré. Quand le chevalier avait passé une semaine à boire et à jurer, il revenait à Mademoiselle d'Amberville, qui ne lui en tenait pas rigueur davantage. Ses fugues vers la tonne et la bouteille le lui ramenaient soumis et contrit, et il s'appliquait à mériter son pardon. Mademoiselle d'Amberville le regardait engloutir à large bouchée. Il était vraiment beau à voir ainsi et contrastait singulièrement avec son ami Portebise, qui mangeait finement à petite fourchette et semblait distrait et pensif, si bien qu'il sursauta quand Mademoiselle d'Amberville dit à la ronde de sa voix claire. Je ne doute point, messieurs, que nous ne donnions grande satisfaction à monsieur de Portebise en parlant de l'amour. À l'âge de monsieur, et avec sa figure, ce sujet doit être sa principale préoccupation, et il ne saurait manquer de nous savoir gré de répondre ainsi aux secrets penchants de son esprit. D'ailleurs, nous sommes tous ici gens d'expérience en la matière, et nos propos ne pourront qu'être utiles et agréables à un jeune homme qui semble fait pour les comprendre. Nous entretiendrons ainsi sa pensée en sa pente naturelle, et il n'aura point à se distraire de lui-même pour s'intéresser à nous. Le fait est, répondit M. de Bercherolles, que c'est encore là le plus court chemin pour se rencontrer. C'est, à proprement parler, le carrefour des esprits, et les plus disparates s'y retrouvent par leur voie particulière. La statue de l'amour est au rond-point de la volupté et à la patte d'oie du sentiment. Pour moi, je prendrai plaisir à ces propos, mais je ne sais si M. de Portebise tirera grand-chose de nos discours. Allons, quoique pour ma part, je sache un peu d'avance comment chacun de nous pense là-dessus. M. de Parménil nous dira ce que l'amour emprunte de variété à la diversité des lieux et des peuples. Il en comparera les façons et les usages. M. Garonard nous dépeindra l'aliment qu'il trouve dans la beauté des corps. M. de Saint-Bérin nous rappellera les plus doux chants qu'il a inspirés. M. de Clercilly nous apprendra quelques-unes des aventures qu'il occasionne. Moi-même, je vous conterai ce qu'il coûte. Quant à Gurcy, il est probable qu'il ne parlera point. Et vous, monsieur, vous ne pourrez moins faire que de nous confier ce qu'en attend quelqu'un qui est en droit d'en tout attendre. Pour moi, dit l'abbé Hubertet, je suis heureux que M. de Bercherolles m'ait mis spontanément hors de cause. Mon état et ma figure eussent pourtant, je l'espère, suffi à M. de Portebise pour me dispenser d'intervenir en cette affaire. Vous vous étonnez sans doute, monsieur, reprit Mademoiselle d'Amberville, de voir ici l'abbé en notre compagnie. C'est là une situation au moins singulière pour un homme de son âge et de son caractère, et si les vôtres s'y accommodent tout naturellement, les siens, par contre, s'y ajustent assez mal. Vous voulez bien ne marquer aucune surprise à le trouver là, mais vous ne sauriez sans doute ne pas en ressentir quelque étonnement. Allons, l'abbé, laissez qu'on vous explique à monsieur. Ne faites pas le gros dos et tenez-vous en paix. Regardez-le donc bien, monsieur. Voyez le contentement jovial de toute sa personne. Croiriez-vous, à le voir ainsi, que ce savant homme ait fait jamais autre chose que ce qu'il va faire maintenant? Cette bouteille de Bourgogne l'attire, et il en prend comme un reflet sur son visage. La gorge de Mademoiselle Varaucourt, qui l'a fort belle, ne lui fait pas détourner les yeux. Et pourtant, monsieur, il a des mœurs. Et Fanchon ? Cria de sa voix de fausset monsieur de Clercilly. L'abbé Hubertet reposa son verre et s'agita sur sa chaise. Sa figure exprimait une colère comique et il remuait ses grosses mains molles et jaunes. Oui, monsieur, continua sans pitié monsieur de Clercilly. Si vous allez chez notre abbé, au lieu d'une gouvernante respectable qui soigne ses gouttes et lui prépare des tisanes, vous trouverez là une fillette de 15 ans qui viendra vous ouvrir avec une révérence. Qu'en dites-vous, monsieur de Portebise ? Cela prouve seulement, répondit monsieur de Portebise, que M. Hubertet aime le service des jolis visages. « Ah, monsieur !» criait l'abbé en se débattant, « n'écoutez pas ces messieurs. J'ai pris Fanchon chez moi, qu'elle était haute comme cela. » « Et que pensez-vous qu'il ait fait apprendre à la petite ?» glapissait Clercilly. « La couture, les modes, la lingerie, le service ou la cuisine ?»« Non, monsieur, vous n'y êtes point. Elle étudie la danse. » « C'est vrai, » intervint Mademoiselle d'Amberville, « que Fanchon danse à ravir. »« Eh bien, » dit l'abbé, qui semblait résigné à la tracasserie, « cela ne vaut-il pas mieux que de la faire peiner au métier de l'aiguille ou aux travaux du ménage ?» Elle n'aura point les yeux rougis et les doigts piqués. La danse favorise la santé et augmente les grâces du corps. Elle aiguise l'esprit. Il en faut pour bien danser, et Fanchon en a beaucoup. Par la danse, on tient un état dans le monde, et les hommes vous savent gré de représenter à leurs yeux les bergères, les princesses et les divinités. Cela les porte à vous traiter comme l'une d'elles. Ne nous considère-t-on point d'après notre apparence ? Et celles qu'on prend à figurer les plus voluptueuses, les plus touchantes et les plus nobles, nous mettent en faveur à la vue de tous, et nous rehaussent en leur imagination. Monsieur de Portebise verra toujours Ariane en Mademoiselle d'Amberville. N'êtes-vous point de mon avis, monsieur ? Certes, oui, et d'autant plus que le hasard m'a donné l'honneur de connaître Mademoiselle Fanchon. Elle est jolie, et elle a poussé la bonne grâce jusqu'à me montrer, l'autre jour, en votre absence, une heure durant, les beautés de votre cabinet. Elle m'a conté l'histoire du gros chien et du pot au lait. « Comment, monsieur ? » s'écria l'abbé avec un grand rire. « Vous êtes le jeune gentilhomme dont Fanchon ne cesse de parler et qui paraissait tant prendre d'intérêt à mes médailles et à mes antiques. Ce beau goût, monsieur, double mon estime pour vous, et je ne pensais guère que cet amateur inconnu fût le propre petit-neveu de ce pauvre monsieur de Galandeau que j'ai fort pratiqué dans le temps. » Mais Fanchon avait oublié votre nom. La petite peste a de ses méprises. Excusez-en sa jeunesse. Prenez-y garde, abbé, dit monsieur de Bercherolles. L'opéra donne de l'esprit aux filles. On vous soufflera ce bijou. Une petite maison est bien vite meublée. Eh bien, monsieur, j'aurai là un endroit à aller souper. Ma vieillesse n'est point jalouse, et je n'ai jamais prétendu que Fanchon ne fît pas le bonheur d'un galant homme. On rit, et l'abbé avec les autres. Il posa un coude sur la table, tandis qu'un laquais chargeait son assiette d'une aile de volaille. « Et où serait le mal ? » continuait l'abbé. « Supposez que Fanchon eût grandi chez ses parents, qui étaient de pauvres gens. Échapperait-elle au sort commun des filles ? Un marinier ? Ou brutal ? Ou quelque séducteur grossier ou fripon ? Grâce à moi, elle connaîtra du moins l'amour et la volupté en de meilleures circonstances. N'est-il pas préférable en tout point qu'au lieu d'être le lot d'un vulgaire goujat, elle échoit à quelque gentilhomme honnête, délicat et riche. Comme vous, par exemple, monsieur de Bercherolles, qui auriez pour elle les égards d'usage et la traiteriez finement et galamment. J'éprouve, à savoir la beauté aux mains populaires et faubouriennes, un peu du même sentiment que j'ai ressenti naguère à trouver, aux doigts des rustres romains, les nobles médailles qu'ils retournaient du soc de leur charrue ou déterraient du bec de leur pioche et qui brillaient mal en leur paume terreuse. N'oubliez pas, monsieur, répéta en riant Mademoiselle d'Amberville à monsieur de Portebise, que l'abbé a des mœurs. Elles sont même excellentes. Le plus beau, c'est qu'il pense ce qu'il dit et le ferait à l'occasion. Sa nature est si généreuse qu'elle s'accorde à toutes les contradictions. C'est un sage. Il est pieux, honnête et chaste, et il écoutera les raisonnements de monsieur de Parmenil, qui sont abominables sur la religion, ou ceux de M. Garonard, qui sont tout crus sur le physique. Les propos libertins de M. de Bercherolles ou de M. de Clercilly ne l'étonneront pas, et il me verrait coucher avec vous, monsieur, au nez de M. de Gurcy, qu'il n'en achèverait pas moins son aile de volaille. Le chevalier, à son nom, avait levé la tête de son assiette et failli s'étrangler d'un petit os. Mais il était habitué aux bourrades et aux plaisanteries de Mademoiselle d'Amberville, et, le plus souvent, il y faisait la sourde oreille. L'os passa. Gurcy but un grand verre de vin et se reprit à manger en mettant les bouchées doubles. « Mademoiselle d'Amberville a dit vrai, monsieur, » continua l'abbé en poussant un gros soupir. « Je suis assez bon spectateur de tout. » La nature me donna le goût de l'amour, mais ma figure m'y rendait peu propre. Je le compris et essayai de m'en distraire. J'adoptai un état qui m'en dispensait et qui me préservait du ridicule qu'il y a dans le monde à ne point être aimé et à aimer mal à propos. Mon infirmité, par ce stratagème, devenait une vertu. Ne devant m'intéresser à personne en particulier, j'ai cherché à m'intéresser à tout. Dure nécessité, monsieur, que de répandre au dehors un sentiment tout intime et de le disperser sans qu'il vous fasse retour. J'ai aimé la terre et la nature, les animaux et les hommes, les saisons et leurs fruits, l'univers pour tout dire, en son présent et en son passé. Ne pouvant prétendre à posséder la beauté dans le corps vivant d'une femme, je l'ai cherchée sous des formes éparses et diverses, sur le visage des passantes, au sourire des danseuses et des comédiennes, sur le relief des médailles, sur les profils des camées, dans l'attitude des statues. Et je puis dire, monsieur, que j'ai été récompensée de mes peines. Il s'est formé dans mon esprit une figure imaginaire qui durera autant que moi. Que dis-je ? La terre même m'a été propice, car elle m'a montré une fois l'image exacte de mon désir. Le vieux sol latin m'a livré son plus beau trésor en cette Vénus assise que j'ai découverte et qui se trouve maintenant au cabinet du roi. Allez la voir, monsieur, ce fut ma seule maîtresse. L'abbé Hubertet s'interrompit. On l'écoutait attentivement. Petit chat blanc de mademoiselle d'Amberville, qui s'était glissé dans la salle, sauta sur la table. Il rôda un instant, puis s'assit sur son derrière, se lécha la patte et se la passa trois fois sur le nez. « C'est ainsi, monsieur, dit encore l'abbé, que j'attendais la vieillesse. Elle est venue, je la désirais. Pendant de longues années, j'ai mis mes sens à une dure servitude. Maintenant, je ne redoute plus leurs écarts. Ils ne me demandent pas assez pour que j'hésite à les satisfaire. C'est pourquoi j'ai peut-être, à vos yeux, l'air de m'y abandonner. Il n'en est rien, monsieur, juste d'un droit légitime. Fanchon en est un des bénéfices. Mademoiselle d'Amberville, un autre, car n'est-ce pas un privilège de mon âge de jouir en paix des grâces du leur ? L'abbé Hubertet avait beaucoup parlé. Sa grosse figure suait à grosses gouttes. D'ailleurs, la chaleur devenait extrême dans la salle close. On entendait parfois, aux deux bouts, l'eau des fontaines retombait dans les vasques avec un murmure alternatif. « Vous devriez bien vous régler sur l'abbé, monsieur Garonard, » dit malicieusement monsieur de Clarcilly, au peintre. « Sa retenue vous serait un exemple à suivre. » Et monsieur de Clarcilly se mit à raconter comment monsieur Garonard avait voulu, sans façon, brusquer madame de Kerby, dont il peignait le portrait. Histoire courrait la ville demain, car madame de Kerby la colportait partout. « Oh !» répondit froidement monsieur Garonard, « ce n'est point la première fois que pareille affaire se produit. J'ai dans mon atelier une bonne douzaine de toiles retournées et interrompues pour la même raison. »« Je ne comprends pas cette Kerby, » dit mademoiselle d'Amberville. « Ce Garonard n'est point mal tourné de sa personne. De plus, il est riche et une madame de Kerby n'y regarde pas de si près à l'honneur d'un mari. N'est-ce pas, monsieur de Bercherolles ?» Monsieur de Clercilly, comme toutes les autres maîtresses de monsieur de Bercherolles, se prétendait aussi madame de Kerby, crut devoir prendre un air modeste et entendu. Voyons, Garonard, comment diable vous y êtes-vous pris ? Je la croyais accommodante. L'argent, dit sentencieusement monsieur de Bercherolles, comme s'il continuait sa pensée, est indispensable en amour. Il en faut, certes, il n'est point tout, et quand il est tout, c'est un assez vilain spectacle. Surtout si la seule force des écus unit la laideur à la beauté. Cela répugne. Mais l'argent est un outil admirable, pourvu qu'il n'ait qu'à aider une physionomie passable. Il la dote d'un attrait subit et vous met en mesure d'avoir toutes les femmes qu'on veut au lieu de n'avoir que celles qui veulent. Il hâte et facilite et ajoute aux passions une heureuse rapidité. Il permet mieux d'apercevoir l'unique visage qui se cache derrière les 100 masques de l'amour. Certains préfèrent pourtant ne lui connaître qu'une figure, objecta d'une voix douce monsieur de Saint-Bérin. Le nombre des amours compte moins pour eux que leur durée. Ils borneraient à Donna Elvire la liste de Don Juan. Une femme vaut peut-être mieux que trois que mille, et même que mille et trois. Je les ai eues à peu près, dit monsieur de Parmenil. Il est vrai qu'elles n'étaient guère assorties, car elles différaient entre elles autant que les contrées où elles habitaient. Les unes, sous la hutte de neige des Lapones, les autres sous la cabane d'écorce des Mohicanes, ou dans les cases de terre et de feuillage des négresses, à moins que ce ne fût sous le toit en bambou des Chinoises. Elle sacrifiait à tous les dieux et moi à un seul, à l'amour. La conversation, une fois là, tourna vite à l'anecdote et ces messieurs en fournirent de fort bonnes qui furent justement goûtées. Chacun en vint à prétendre que l'amour a sa diversité en lui-même et qu'il offre des surprises inattendues sans qu'il soit besoin de les chercher si loin. « Vous n'ignorez pas, dit M. de Bercherolles, combien je suis réglé en matière de femme et l'ordre excellent qui me gouverne à ce sujet. Mais il n'en fut pas toujours ainsi, et ce n'est qu'assez tard que je parvins à une conduite dont je me loue tous les jours. » Quand je quittai les fermes générales, j'avais 38 ans passés. Jusque-là, j'avais couru un peu à droite et à gauche. Certes, je n'entends point être ingrat envers les rencontres que le hasard m'a procurées. Il s'en trouva de bonnes et auxquelles je n'eus rien à redire. Mais je m'aperçus néanmoins que souvent je me contentais plus par moi-même que par celles qui eussent dû augmenter mon contentement par la valeur particulière de leur complaisance. La beauté donne au sens des aides secrets, et il s'agit de bien choisir ses secours voluptueux. En un mot, je remarquai que je risquais fort de passer ma vie sans avoir eu les femmes que j'aurais le mieux aimé avoir eues, et c'est à cela que j'ai voulu remédier. Voici comment je procédais. Je regardais autour de moi avec plus d'attention que je n'avais fait jusqu'alors. Peu à peu, je m'instruisis moi-même des visages qui me plaisaient le plus et je dressais un registre des personnes à qui ils appartenaient. Cela fait, je me mis à la besogne et en devoir de posséder une à une les femmes que j'avais ainsi distinguées. J'y parvins, j'agissais avec une parfaite liberté d'esprit et je réussis à souhait sans m'écarter une fois de la règle que je m'étais tracée. Cette constance, poursuite bizarre de me faire paraître infidèle. On me crut volage, j'avais placé ma fidélité vis-à-vis de moi-même et je veux vous conter le seul écart que j'y fis jamais. Encore fallut-il une de ces surprises de l'amour dont nous parlions tout à l'heure. Je me trouvais à la campagne, en chasse, le fusil à la main, ma carnassière au côté. Elle était lourde. J'avais poursuivi jusqu'au crépuscule la remise des perdreaux, si bien que je m'égarais, et la nuit venue, séparée de mes gens, je ne savais pas où retourner au château. J'avisai une lumière entre les arbres et j'entrai dans une chaumière, assez propre, où je demandai un gîte. Le paysan me reçut bien, sans me connaître. Il me servit, me montra au grenier une place dans le foin et me souhaita le bonsoir. À peine étendu, j'entendis grimper à l'échelle et marcher dans la paille avec précaution. J'avais laissé mon fusil en bas et me sentais assez penaud. Il faisait noir comme dans le cul d'un four. La petite lanterne que l'hôte m'avait donnée s'était éteinte. Je serrai les poings, déterminé à me défendre. On respirait doucement à côté de moi. Ce soupir me rassura et je commençai à deviner l'affaire. Certes, elle n'était point prévue sur mon registre et n'entrait guère dans mes vues. Mais je n'y pensais point à ce moment. Ma main, étendue, rencontra une gorge ronde et la toile d'une chemise que je soulevais. Je sentis une peau douce et fraîche, une bouche savoureuse baisa la mienne et je m'abandonnai à cette volupté nocturne et singulière. Vous dirais-je qu'elle fut délicieuse ? Je ne voyais rien de celle qui causait mon plaisir et me semblait le partager. Ah, la belle nuit amoureuse et rustique ! Le foin et la chair sentaient bon dans l'air doux et tiède et tout parfumé. L'aube blanchissait à peine les fentes de la lucarne que le chant du coq m'avertit. Je repris furtivement mes habits, je me dirigeai à tâtons vers l'échelle que je descendis 4 à 4 et je m'enfuis à travers champs. Je fus assez heureux pour retrouver la route du château. Ma belle muette n'avait pas prononcé une parole et je n'emportais de cette nuit imprévue que le bruit du foin froissé et le souvenir mystérieux de cette bouche invisible et de ce corps obscur et charmant. Puisque nous sommes dans le romanesque et que ces histoires semblent amuser Mademoiselle d'Amberville, dit Monsieur de Parmenil, je vous dirai que je crois avoir rencontré à peu près l'inconnu de Monsieur de Bercherolles. Seulement, de belle fille de France, elle s'était faite pour l'occasion chinoise en Chine. Nous vous suivrons, monsieur, où vous voudrez bien nous mener, dit Monsieur de Bercherolles, et j'ai hâte de retrouver ma belle silencieuse. Vous allez la reconnaître, répondit Monsieur de Parmenil. et il commença en ces termes. Nous avions remonté le fleuve jaune sur une grande jonque dorée qui portait à l'avant un dragon vert. Les rives de roseaux cessèrent et nous longeâmes une côte habitée. Elle était bordée de pagodes et de petits tombeaux. Enfin, nous nous amarrâmes au port d'Anoy Pong, entre deux gros pilotis peints et sculptés de masques grimaçants. Nous vîmes bientôt arriver le premier mandarin qui, avec beaucoup de politesse, nous souhaita la bienvenue et nous invita à lui rendre visite. Sa maison, qui nous parut fort belle, était située au bord de l'eau, dans un jardin qui contenait quantité de kiosques et une tour de porcelaine. On nous introduisit, après force cérémonie, dans une salle longue où, sur une petite estrade, se tenait la fille de notre hôte, la célèbre Tung Shang. Une collation se trouvait préparée où l'on nous servit maints plats bizarres auxquels nous goûtâmes par curiosité et par courtoisie. Le mandarin était un vieil homme. Il portait une robe de soie rouge et verte à petits boutons et une sorte de calotte ronde d'où pendait par derrière une queue nattée. Tout se passa le mieux du monde et nous nous quittâmes en bons termes avec la permission de laisser notre jonque amarrée au port et l'autorisation de parcourir le pays environnant. J'y employais mes journées. J'étudiais les usages et les plantes. Vers le soir, j'allais souvent me promener au jardin du mandarin. Les allées étaient saupoudrées de sable de couleurs diverses. Ça et là, une boule de cristal, pleine d'eau, posée sur une colonnette, contenait de baroques poissons. Ils étaient d'or rouge, d'or jaune ou d'or vert et comme bossus, avec de gros yeux, des nageoires déchiquetées et des barbes filamenteuses. Je rencontrais parfois la céleste Tung Shang qui venait leur donner à manger. Nous nous saluions de loin avec les simagrées d'usage en cette contrée biscornue. Tung Shang portait plusieurs robes de longueurs inégales et de couleurs différentes, superposées et serrées à la taille par une large ceinture nouée par devant. Sa chevelure était coiffée en grosses coques hérissées de longues épingles. Elle marchait à petits pas, montée sur de hauts patins en bois sculptés à joues. Quand je passais, elle me regardait du coin de son œil coquettement bridé. Un soir, que j'étais restée là plus tard que de coutume, je me trouvais assis au pied de la tour de porcelaine. En attendant le lever de la lune, j'écoutais dans la nuit obscure gémir une touffe de roseaux quand je me sentis prendre la main dans l'ombre. Je me laissais guider. Une forme vague m'entraînait et me fit entrer dans la tour par une petite porte basse que je ne soupçonnais pas. Je me trouvais dans une chambre faiblement éclairée. Au mur, une idole cornue grimaçait à la fumée de cierges en papier doré. Divine Tung Shang reposait mollement sur des coussins et me fit signe de m'asseoir auprès d'elle. Sa robe était entr'ouverte, elle l'écarta d'un geste et mit ses mains sur ses yeux. Je compris et me mis en devoir de ce qu'attendait de moi la belle chinoise. J'y parvins tout juste. Sa souplesse, son agilité me déconcertaient. Son petit corps jaune glissait entre les doigts. Ses seins figuraient assez bien deux citrons tièdes. Elle ressemblait à un jeune animal, taquin et furtif, et je la trouvais délicate, amoureuse et fort experte. Ses yeux, retroussés, souriaient dans sa figure lisse. Elle exhalait une senteur pimentée de gingembre, de thé et de vanille et de ce parfum poivré qui reste au fond des boîtes de vieux lacs. Elle disait des mots rauques que je ne comprenais pas. Entre deux plaisirs, elle tira de ses cheveux une de leurs longues épingles à boules de jade et m'en piqua la joue en riant. Et je respirais l'odeur des roses effeuillées qui remplissaient de leurs pétales de grandes coupes de bronze et j'entendais au toit aigu de la tour de porcelaine, sous la lune, dans le vent argenté, le tintement épars des clochettes aériennes. La conversation s'était séparée en colloques particuliers après le récit de M. de Parménil. Il parlait bas à Mlle d'Amberville, à qui il complétait à l'oreille son aventure chinoise, de même que M. de Bercherolles, penché vers Mlle Varaucourt, ajoutait quelques détails à sa galanterie rustique. Les deux femmes écoutaient à demi. Mlle Varaucourt souriait dans le vide, droit devant elle, et Mademoiselle d'Ambreville, de ses doigts agiles, tambourinait des danses sur son assiette, tout en regardant à la dérobée avec un intérêt croissant Monsieur de Portebise, qui s'entretenait à voix basse avec l'abbé Hubertet. Le gros abbé paraissait fort attentif à ce que lui disait son voisin. Tantôt il hochait la tête, Tantôt, il regorgeait ses trois mentons d'un air approbateur. Il levait les yeux au plafond, puis les rabaissait sur son interlocuteur. Monsieur de Portebise se tut. L'abbé but un grand verre de vin, s'essuya les lèvres du revers de sa main. « Certes, monsieur, dit-il à monsieur de Portebise, le souci que vous montrez de la mémoire de votre grand-oncle, monsieur de Galandeau, et les questions que vous voulez bien m'adresser à son sujet, vous honorent singulièrement. Avant d'y répondre, permettez-moi de vous louer à vous-même et d'admirer avec vous votre conduite, car, d'ordinaire, les neveux se comportent tout autrement, et en cela, ils agissent avec une coupable ingratitude. Ils se hâtent d'oublier l'auteur de leur nouvelle fortune et ne lui savent guère gré que d'être mort. Encore lui reproche-t-il plus d'une fois d'avoir tardé. La coutume de ses héritiers est d'autant plus mauvaise que tout leur en recommanderait une autre, car le plus souvent, le bienfait leur vient d'une main familière et il y aurait quelque décence à continuer un peu aux défunts les sentiments dont on faisait montre envers le vivant. Pour ce qui est de vous, monsieur, les circonstances sont bien différentes. Vous n'avez point connu votre oncle, et, comme vous me faites l'honneur de me le dire, vous en avez à peine entendu parler. Il ne tenait aucun rang dans vos affections, et n'avait même aucune figure en votre souvenir, et voici que vous vous souciez de lui en donner une en votre reconnaissance. Il ne tient qu'à vous, monsieur l'abbé, en effet, répondit monsieur de Portebise, de mettre fin à une incertitude qui, je dois le dire, et comme vous le pensez bien, m'embarrasse moins le cœur que l'esprit, et qui est d'une espèce assez particulière. Je ne prétends point forcer la retraite posthume où, par la mort, s'est retiré M. de Galandeau. Il me répugnerait même d'extorquer en quelque sorte les secrets de sa mémoire. Non, monsieur, ce que j'attends de vous est tout autre. Vous me complimentez de ce qu'à l'encontre des héritiers ordinaires, je n'eus aucun regret à mêler à un événement qui d'habitude touche plus qu'il n'émeut. Détrompez-vous, monsieur, et permettez-moi au contraire de les envier. Qu'ils sont heureux. N'ont-ils point été appelés au chevet du moribond? Ils ont suivi ses obsèques. Ils ont payé le fossoyeur et le sacristain. Ils connaissent la forme exacte de celui qu'ils mènent au tombeau. Ils savent quelque chose de lui. On les complimente de la perte qu'ils ont faite. Ils retrouvent des lettres au fond d'un tiroir. Ils ont une défroque à vendre au fripier, un portrait à mettre au grenier. Mais moi, mon cas est tout autre, et jugé de sa bizarrerie. J'hérite d'un oncle inconnu qui n'a pour moi ni visage, ni membre, ni stature, rien qui puisse m'aider à me le représenter exactement. Et comment diable voulez-vous, si je ne puis me l'imaginer vivant, que je me persuade qu'il est mort? Son héritage reste, si l'on peut dire, en suspens, et je ne puis m'approprier ce qui ne me vient de personne, puisque pour moi, M. de Galandeau n'est pas quelqu'un. Rien ne me prouve, après tout, qu'il ait existé réellement. Tout cela n'est-il pas ridicule? Et encore, j'exagère à peine. Tout concourt à entretenir mon ignorance. Son banquier de Rome, un certain M. Dalphy, vient de mourir, qui eût pu me renseigner. Maître Lobin, qui administre ses terres, ne l'avait jamais vu. J'ai su par lui qu'il habite à Paris. Ici, ni M. de Kerby, qui depuis 50 ans sait toute la ville, ni M. Laverdon, qui un demi-siècle a coiffé toutes les têtes de qualité, n'en ont ouï parler. Quant à ma mère, elle n'en veut rien dire. Et c'est un miracle si j'ai pu tirer d'elle votre nom. Aussi, monsieur, jugez de ma surprise et de ma joie quand vous me dites tout à l'heure, en passant à table, que vous aviez beaucoup connu monsieur de Galandeau, et pensez à ma gratitude, si vous voulez bien m'aider, à me figurer cet oncle presque imaginaire. Rassurez-vous, monsieur, votre oncle fut, répondit en souriant l'abbé, et j'eus même l'honneur d'instruire sa jeunesse en ce beau château de Pontobel qu'il vous a laissé sans doute. J'y fus appelé jadis auprès de M. de Galandeau. C'était un jeune homme traitable et doux, et je me demande pourquoi Madame votre mère, que j'y vis alors fort petite, a voulu ainsi oublier à dessein son cousin Nicolas. Mais cela ne nous importe point. Ma tâche fut aisée. Je parvins à former en lui un élève pieux et discret. La pureté de ses mœurs égalait la douceur de son caractère. Il n'était point étranger aux bonnes lettres, et je ne doute point qu'en tout temps votre oncle n'ait conformé sa vie aux fortes règles de conduite dont nous avions pris soin de le nourrir. Mais les événements m'empêchèrent d'assister au spectacle de mon œuvre. Notre évêque, M. de la Grangère, m'emmena à Rome. Je voyageais. Puis, un jour, mes lettres restèrent sans réponse. Le temps passa. Les années s'écoulèrent, et ce ne fut que bien longtemps après que je retrouvai M. de Galandeau. Malgré cette longue absence, nous nous reconnûmes aisément et nous tombâmes au bras l'un de l'autre, au grand étonnement des passants, car c'était juste au milieu du pont neuf. Nous venions en sens inverse, et du plus loin que nous nous aperçûmes, nous fûmes sûrs de nos visages. La laideur ne change guère, et ma figure en mérite d'être assez durable. La sienne ne me parut point trop modifiée, et cette rencontre me fut douce. J'appris de lui que, quelques années après la mort de sa mère, il s'était rendu à Paris. Je me doutais bien qu'il y devait mener une vie retirée, car ses goûts ne le portaient guère à la dissipation et au libertinage. Je ne me trompais point, mais je m'aperçus qu'il vivait dans une singulière oisiveté et dans un grand désœuvrement d'esprit, et je ne m'expliquais pas ce qui avait pu lui faire préférer le séjour de la cité à celui de Pontaubel. Ce fut pour combattre cette paresse que j'eus l'idée de l'intéresser à mes travaux, pour combler son loisir continuel, les études auxquelles j'avais pris soin de familiariser sa jeunesse. J'y réussis au-delà de toute espérance. Peu après, je l'introduisis dans une compagnie où il se plut, et où il plut par sa complaisance et sa politesse. On ne s'occupait guère là des choses du siècle, et la conversation n'y roulait point sur des sujets à la mode. Mais ces messieurs n'avaient point leur pareil pour la connaissance des antiques de toutes sortes. M. de Galandeau adopta leur vie studieuse, sédentaire et réglée. Il habitait au Marais un appartement qui donnait sur un jardin. Je l'y revois encore, et c'est là, monsieur, que je vous le veux faire voir en pensée. M. de Galandeau, votre oncle, n'était ni beau, ni laid, ni vieux, ni jeune. Il semblait avoir pris 40 ans une fois pour toutes et bien décidé à s'en tenir là. Grand et maigre d'ailleurs, et d'une taille un peu courbée. Une vaste perruque enserrait son visage osseux. Il portait un large habit gris, qu'une fois usé, il remplaçait par le pareil. Il était rare que quelques livres ne ballottât pas dans ses poches, pêle-mêle avec des médailles dont il les remplissait et qui tintaient entre elles. Il gardait au doigt, en anneau, une assez belle pierre gravée, et il la regardait fréquemment en arquant un de ses sourcils. Un air de simplicité était répandu sur sa personne, et il aurait peut-être bien même, pour être franc, paru un peu nigaud si son silence, son maintien et sa vertu n'en eussent imposé au point que nous l'avions entre nous, surnommé le Romain, sans nous douter qu'il mériterait jamais ce sobriquet autrement que par la dignité de son caractère, la rigueur de ses mœurs et la constance de sa frugalité. Sa seule sensualité était pour le raisin. Il en achetait du plus beau et encore le plus souvent le gardait-il sur sa table sans y toucher, comme si la vue d'une belle grappe eût suffi à sa sage gourmandise. L'abbé Hubertet s'était interrompu de parler. Il avait attiré à lui une bouteille et s'en versait du vin. M. de Portebise restait silencieux. L'oncle Galandeau prenait, si l'on peut dire, corps à ses yeux, et tout joyeux, comme pour saluer ce nouveau venu, M. de Portebise atteignit la bouteille de l'abbé et s'en versa à son tour. Il finissait de boire quand M. Hubertet reprit. Je parlais quelquefois à votre oncle de la vigne de mon ami le cardinal Lamparelli. Elle était au bout de son jardin de Rome. Nous étions assis sur le pampre un jour où les ouvriers, non loin de nous, fouillaient le sol. En exécutant des travaux d'agrément, ils avaient mis à découvert des restes antiques. Le terrain rendait des débris de poterie et des médailles que nous examinions à mesure, quand on nous vint dire que la pioche mettait à nu un bras de statue. Nous courûmes à l'endroit. Ah, monsieur, ce bras sortait de terre à demi. Sa main brisée semblait implorer notre aide. Bientôt, les épaules apparurent, puis la tête, et le corps entier de la Vénus. Son marbre brillait par places sous l'écorce terreuse qui la couvrait. Lamparelli dansait de joie, et moi, à genoux dans la poussière, j'embrassais la belle main mutilée. Il faisait un grand soleil. Le cardinal n'en resta pas là. Une fois, moi de retour en France, il continuait de m'avertir par lettre de ses trouvailles, et je crois que ces récits furent pour quelque chose dans la résolution subite de votre oncle de partir un beau jour pour Rome. Mon étonnement fut extrême et partagé par tous ceux qui connaissaient M. de Galandeau. Rien de ce que nous pûmes lui dire ne parvint à le détourner de son projet. Nous nous y accoutumâmes et il l'exécuta. Il emportait des lettres pour le cardinal Lamparelli. Une fois parti, notre Romain nous laissa sans nouvelles. Je n'en reçus jamais d'autre que cette urne de bronze que Fanchon vous aura montrée chez moi, à gauche, près de la porte, et qu'il m'envoya, un an à peu près, après son arrivée là-bas. Ce fut tout. Nos amis moururent un à un. Je restai seul de la petite société où il bornait ses relations. Nous y parlions souvent de lui, mais je ne m'étonne pas que son nom ne soit jamais parvenu jusqu'aux oreilles de M. de Kerbis, pas plus qu'il ne me surprend que sa tête ne passa jamais par les mains de M. Laverdon. Il n'était point leur fait. Sans vous, j'ignorerais encore que mon pauvre Nicolas a cessé d'être. Ne pensez point, monsieur, me voir insensible à sa mort. Ce n'était point des regrets que vous demandiez, mais une image exacte qui vous aida à vous représenter celui qui n'est plus et qui risquait pour vous de ne jamais être. J'ai fait de mon mieux. Je vous ai présenté l'un à l'autre. Saluez-vous donc et prenez congé de lui. Croyez-moi, monsieur, ne vous attardez point trop au souvenir de quelqu'un qui ne fut ni de votre âge ni de votre temps. Vous avez satisfait à un délicat devoir de politesse mortuaire dont le souci vous honore. Le plaisir vous appelle. Quittons ce sujet et rompons ce propos. Vous voici en règle avec monsieur votre oncle et en retard avec mademoiselle d'Amberville qui vous regarde avec complaisance. Rendez-lui vos yeux. Sa gorge mérite votre attention et écoutons monsieur de Bercherolles. Au moment où monsieur de Bercherolles allait parler, les portes s'ouvrirent avec fracas et un laquais annonça brusquement « Monsieur Thomas Tobison de Tottenwood. » Monsieur Tobison était d'une stature vraiment remarquable. Son corps énorme remplissait toute l'ampleur d'un vaste habit de velours écarlate. Au bout de ses bras pendaient des poings massifs et tout velus de poils fauves. Une courte et grosse perruque à rouleaux faisait ressortir, par sa blancheur poudrée, la teinte cramoisie du visage carré où l'on distinguait, dans une masse de chair comme bouillie, de petits yeux vifs, un rien de nez, une toute petite bouche en cul de poule, avec une moue qui semblait prête à pondre. M. Tobison de Tottenwood aurait été certainement un personnage fort comique si sa force, sa structure et sa taille ne l'eussent rendu respectable. Mais comment rire d'un homme dont le pas faisait plier les planchers quand il marchait de ses larges pieds chaussés d'immenses souliers à boucles. C'est ainsi qu'il s'avança vers mademoiselle d'Amberville, lui secoua brutalement la main, adressa à la compagnie un salut circulaire et s'assit sur une chaise silencieusement. Mademoiselle d'Amberville semblait parfaitement habituée aux façons de l'anglais. Il avait tiré de sa poche un écrin qu'il tendit et qui contenait un diamant d'une fort belle eau. Pendant que la pierre passait de main en main autour de la table, un domestique avait posé devant M. Tobison un panier de bouteilles de Bordeaux. À ses passages à Paris, M. Tobison ne manquait jamais de venir voir Mademoiselle d'Amberville et de lui apporter quelques présents. Aussi lui passait-elle ses bizarreries et ses improvistes, car M. Tobison était riche et baroque. Il voyageait, et on l'appelait My Lord, bien qu'il ne le fût pas, son aîné siégeant parmi les pairs du royaume, et lui, cadet, s'étant enrichi par le commerce. Sa fortune faite, il quitta l'Angleterre et n'y remit plus jamais le pied. On le vit à Venise, parmi les masques du carnaval, à Vienne et à Varsovie, à Amsterdam. Il parcourait l'Europe d'un bout à l'autre pour se distraire, se montrant partout amateur de femmes, de pierreries et de vins, partout vêtu de rouge, gigantesque, taciturne, phlegmatique et imperturbable. Il achevait sans mot dire sa troisième bouteille. « Certes, disait M. de Bercherolles, nous avons tous aimé, chacun à notre façon, et nous voici tous là, ce soir, et en assez bon état, je puis le dire, bien vivants et en posture de démentir la mauvaise réputation de l'amour. Nous avons tous entendu parler des malheurs qu'il cause et des catastrophes où il mène sans en avoir rien éprouvé de tel. Il faut avouer qu'il nous a singulièrement favorisés et que nous n'avons point à nous plaindre de lui. Il est vrai, repartit M. de Clercilly, que l'amour ne nous a pas nui. Peut-être sans lui, Bercherolles, seriez-vous quelque peu plus riche, car il vous a coûté gros. Mais sans les dépenses que vous y avez faites, j'aurais été moins heureux. Nous devons d'autant plus nous en louer, reprit M. Garonard, qu'il cause tout de même de terribles ravages. J'ai peint, plus d'une fois, des visages d'hommes ou de femmes qui portaient des traces certaines de ses larmes et de ses tourments. Je crois que notre bonheur en amour vient surtout, dit Mademoiselle d'Amberville, de la familiarité où nous avons vécu avec l'amour. Nous lui laissions prendre à son gré toutes les formes du hasard, sûrs de le retrouver toujours sous le masque où il se plaisait à se déguiser pour nous apparaître. Il nous a été reconnaissant d'obéir à ses caprices. Il ne devient dangereux que lorsqu'on l'emprisonne sous un aspect unique. Sa nature même, qui est universelle, répugne à cette contrainte. Mais si, au lieu de cela, on le laisse libre de nous émouvoir, selon les surprises où il aime à se travestir, il reconnaît notre complaisance par des égards particuliers. Sinon, il se vengera d'une fidélité malencontreuse par les plus dures, les plus absurdes et les plus piteuses servitudes. Je crois bien que mademoiselle d'Amberville a raison, dit monsieur de Parménil, mais je ne la savais pas si grande philosophe. Supposez en effet que l'un de nous eût aimé exclusivement mademoiselle d'Amberville, qu'au lieu des délices du plaisir, il eût exigé d'elle les constances de la passion. Serait-elle l'aimable grâce ailée qui voltige en nos souvenirs? Non, elle serait devenue pour l'un de nous une idée particulière dont il eût été l'esclave. J'ai vu dans mes voyages de ces figures immobiles qui servent à un culte sacré. Elles sont taillées dans le bois précieux ou la pierre rare, mais elles imposent à leurs fidèles un servage rigoureux. Elles les prosternent dans la poussière et dans la boue et exigent parfois pour sacrifice le sang même de leurs dévots. Sans aller si loin, dit monsieur de Bergerolles, nous avons vu des femmes obtenir de leurs amants les pires turpitudes et les plus bas services. Ils supportaient les plus fâcheuses avanies simplement parce que... Monsieur Tobison de Tottenwood interrompit monsieur de Bergerolles. Il parlait en anglais d'une voix rauque et cédait de gestes brusques. Le baroque personnage savait fort bien toutes les langues, mais en compagnie, de peur de prêter à rire par l'accent burlesque qu'il leur donnait, il ne se servait jamais que de la sienne. Monsieur Tobison ne se démontait pas et continuait son jargon natal. On s'entre-regardait. Mademoiselle d'Amberville comprenait à demi, car elle avait dansé sur les théâtres de Londres et en avait retenu un peu du langage de là-bas. Monsieur Tobison continuait. Cela dura assez longtemps. Quand il eut fini, il mit ses poings énormes sur la table et éclata d'un rire sonore. On l'imita. Voici à peu près ce que vient de nous conter monsieur Tobison et qui a trait justement aux singulières pratiques où l'amour réduit certains amants, dit alors monsieur de Parménil qui, en bon polyglotte, eût aussi bien pu traduire en chinois ou en persan la harangue du gros anglais. Il se trouvait donc, l'autre année, à Rome, où il avait fait connaissance d'une courtisane nommée la Signora Olympia. La belle lui plut et il alla assez fréquemment coucher chez elle. Or, un matin qu'il dormait encore, il vit en ouvrant à demi les yeux un homme assez vieux qui posait sur un fauteuil, soigneusement brossé, l'habit que Mylord avait quitté la veille au soir. Le personnage portait également à la main les souliers. Il faut vous dire que M. Tobison, qui a le pied grand, tient beaucoup au bon état de sa chaussure. Il avait eu, sous ce rapport, à se plaindre de la négligence des valets romains. Celui-là, au contraire, lui rapportait des souliers admirablement luisants. M. Tobison, charmé de cette nouveauté, eut l'idée de demander à la signora de lui céder ce serviteur. À cette demande, l'Olympia fut prise du fou rire. Le faux valet n'était autre qu'un gentilhomme français fort riche. Non seulement la dame en tirait de fortes sommes, mais encore, elle lui imposait les travaux les plus rebutants de l'office, de l'antichambre et de l'alcôve. L'histoire de M. Tobison fut fort bien accueillie. À peine fut-elle finie que le chevalier de Gurcy, se levant de la table, s'écria tout haut de sa grosse voix enrouée. « À la bonne heure, messieurs, ce gentilhomme domestique me plaît. Et voilà pour de bon qui est aimé. » L'enthousiasme soudain de M. de Gurcy fit brouhaha. D'ailleurs, le souper finissait. L'odeur des vins et des mets avait encore alourdi l'extrême chaleur. Tout le monde parlait à la fois, au point que les propos se croisaient sans se répondre. M. Garonnard dessinait sur du papier des figures libres qui passaient de main en main. M. de Bergerolles faisait teinter l'or de ses poches. M. de Saint-Bérin chantait. Mademoiselle Varaucourt commençait à se débrailler et faisait carillon avec les assiettes. M. de Parmenil parlait chinois pour lui tout seul. M. de Clercilly avait pu sortir, mais ses jambes ne durent pas le porter loin. La petite chatte blanche de mademoiselle d'Amberville se promenait sur la table avec précaution, rôdant à travers la verrerie et tournant autour du surtout des fleurs, où, de temps à autre, d'un coup de patte furtif et prompt, elle déchirait une des roses ébouriffées dont les pétales pleuvaient mollement sur la nappe. Le désordre dura assez longtemps. Enfin, quand il fut à son comble, la danseuse fit un signe à monsieur de Portebise et tous deux disparurent, suivis sur les talons par la chatte blanche qui se glissa à leur suite. Personne ne prit garde à leur sortie. L'abbé Hubertet dormait, sa grosse tête tombée à droite et à gauche sur son épaule. Il ne se réveilla même pas à l'effondrement de Gurcy roulant sous la table autour de laquelle monsieur Thomas Tobison de Tottenwood, cramoisi et en habit rouge, mais solide encore sur ses larges pieds, portait à bout de bras mademoiselle Varaucourt, retroussée jusqu'aux hanches et la cuisse à l'air.